Nathalie Arthaud, 2 ans d'Emmanuel Macron, ça évoque quoi pour vous?
Eh bien, d'abord un événement qui a quand même marqué l'actualité de ces dernières semaines et qui en dit long sur la politique d'Emmanuel Macron et puis sur notre société en fait. C'est ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris. Voilà, parce que là on a vu effectivement, immédiatement une mobilisation d'une poignée de très fortunés. Hein. On a vu en quelques heures une famille, une seule, Pinault, capable de mettre sur la table 100 millions. Et puis, je ne sais pas, je pense que Bernard Arnault, craignant de se voir voler la vedette, a surenchéri avec 200 millions, lui. Hein. Alors voilà, le lendemain, c'était Bettencourt. Enfin bon, il a suffi de 48 heures pour collecter 1 milliard. 1 milliard. Alors voilà, ça fait des années maintenant, 2 ans pour Emmanuel Macron. Mais enfin, avant, c'était Hollande. Avant Hollande, c'était Sarkozy. Hein, des années que les dirigeants passent leur temps à nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les urgences hospitalières, pas d'argent pour les EHPAD, pas d'argent pour le logement, enfin de l'argent pour rien. Pas de l'argent pour embaucher, pas de l'argent pour augmenter les salaires, même plus d'argent pour payer les retraites, tant et si bien que Emmanuel Macron nous explique qu'il va falloir travailler plus. Hein, voilà. Donc, il n'y a jamais d'argent pour la population. Il y en a évidemment pour ces grands riches. Il y a un choix. Il y a un choix politique fondamental qui est fait par Emmanuel Macron, mais par ses prédécesseurs. C'est effectivement de servir ces gens-là. Voilà. De les servir, de leur dérouler le tapis rouge, de casser les droits des travailleurs. Et évidemment, il faut... d'abord, je pense que ça explique la colère sociale qui s'exprime. Et moi, j'espère que cette colère sociale, elle s'exprimera aussi dans ces élections européennes.
Nathalie Arthaud, alors, pour vous, pas question de travailler davantage, vous l'avez dit il y a quelques instants. Comment est-ce que vous envisagez de redonner du pouvoir d'achat aux Français ?
Je crois qu'effectivement, le pouvoir d'achat, c'est la question des salaires. C'est la question des salaires, des pensions de retraite. C'est la question aussi de la pension d'invalidité, de l'allocation adulte handicapé. Et je pense qu'il faut les augmenter. Il faut les augmenter considérablement.
Elle parce a été augmentée hier à l'allocation handicapée.
Mais, écoutez... Ça donnera une pension inférieure à 1 000 euros. Vous vous rendez compte, en dessous du seuil de pauvreté. Oui. C'est indigne. C'est indigne. Et moi, j'ai beaucoup entendu le gouvernement et Édouard Philippe expliquer solennellement qu'il serait un gouvernement qui ferait en sorte que le travail paye. Mais le travail ne paye pas. Je suis désolée, mais on peut être ouvrier, employé, aide-soignante, aide à domicile, gardien de sécurité, mais le travail ne paye pas. On peut travailler dur et pas gagner sa vie. C'est ça la réalité. Tant et si bien d'ailleurs que le gouvernement est en train de se creuser la tête pour savoir comment on va aider les salariés à mettre de l'essence dans leur réservoir pour qu'ils puissent se rendre au boulot. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Le salaire ne permet même plus de se loger correctement et de mettre de l'essence dans sa voiture. Donc, il faut effectivement augmenter considérablement. Moi, je pense que si on se place du point de vue des travailleurs qui ne vivent que de leur salaire, et ils ne vivent pas des intérêts du livret A, hein, qui vivent de leur salaire ou de leur pension de retraite, eh bien, il faut le monter au minimum à 1 800 euros net. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a de l'argent. Quand on voit effectivement qu'ils trouvent de quoi augmenter les dividendes, les retraites chapeaux, les rémunérations des grands actionnaires, ça veut dire qu'il y a de quoi augmenter ces salaires. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour.
Non, c'est son patron.
Oui, c'est ça, c'est son patron. Ouais. Hein, c'est pas le Saint-Esprit qui
et ce sont les commissaires européens.
Casse les salaires. C'est effectivement des dirigeants des grandes entreprises qui en veulent toujours plus.
Mais eux adorent l'Union européenne.
Mais ça, ça vous
eux adorent l'Union européenne.
Jamais vous ne le dites, jamais.
Oh, je le dis sans arrêt.
Jamais un mot contre effectivement tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires.
Je ne fais que parler d'eux, mais moi je vais au-delà de ça, madame Arthaud. Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça.
En cachant leur responsabilité.
S'ils
en cachant leur responsabilité, ne vous inquiétez pas.
S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire.
Chez Carrefour, chez Auchan, ça, et ben ça va continuer avec vous.
Aujourd'hui, quand on parle de décarboner, quand on parle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est urgent, c'est nécessaire. Mais concrètement, au volant de notre voiture, aujourd'hui, on voit l'effet sur les prix à la pompe. Est-ce qu'on peut utiliser un outil de type taxe carbone pour sortir de ces émissions de gaz à effet de serre ?
Ah non, mais moi je suis absolument contre faire payer les automobilistes et en particulier ceux qui sont piégés, enfin qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller par exemple travailler. Voilà. Par ailleurs, je voudrais quand même dire que s'il y a un problème qui nécessite d'enlever ces œillères nationales, et de balayer le nationalisme. C'est quand même bien le problème de l'écologie, excusez-moi, mais quand même, on n'a qu'un seul vaste océan, me semble-t-il. Enfin, une atmosphère, une seule atmosphère, une seule terre, une seule planète. Bon, donc, ça n'a pas de sens de raisonner de façon nationale, de façon, repliée sur sa petite forteresse, comme ça. Bon, et par ailleurs, je voulais dire aussi, c'est que c'est pas l'Union européenne qui est incompatible avec l'écologie. C'est le capitalisme qui est incompatible avec l'écologie. Qui a pollué les mers, les océans? Qui a exploité effectivement le gaz, le pétrole en polluant les sols? Qui a transformé en désert des terres qui pouvaient être cultivables? Qui aujourd'hui effectivement met sur la route cette myriade de camions qui se croisent dans tous les sens, ces porte-containers qui transportent parfois d'ailleurs les mêmes marchandises dans les deux sens.
Ce sont les grandes entreprises françaises.
Et ce sont les grands groupes industriels et financiers. Pour moi, ils portent une responsabilité écrasante. Et si effectivement on ne raisonne pas en cherchant à les contrôler, à leur interdire, et moi je pense en réalité à les renverser, on ne peut plus leur laisser la direction de cette économie.
Les renverser comment ?
Mais moi je pense que cette classe capitaliste, elle a montré son incapacité effectivement à faire tourner l'économie bien. Regardez, on est dans une crise dans laquelle on s'enfonce, et elle nous mène à la catastrophe écologique. Elle a une ligne de conduite, cette classe capitaliste, et je fais mon argent. Et après moi, le déluge, voilà. Et elle a empoisonné ainsi des générations de travailleurs avec l'amiante, les agriculteurs avec le glyphosate. C'est ça la réalité. Alors si on laisse les manettes de l'économie et de la société dans les mains d'une classe sociale qui ne jure que par son profit, eh bien, on court à la catastrophe. Il n'y aura peut-être pas de 22e siècle à ce rythme-là. Donc moi, je pense que, voilà, il faut être réaliste sur qui aujourd'hui porte cette responsabilité. D'accord. Et moi, juste une petite chose, c'est que je ne supporte plus ces discours culpabilisants, en expliquant que chacun doit être responsable de sa consommation, parce qu'on doit faire son petit geste. Je ne supporte plus ça. Je l'avoue. Vous savez, y compris les travailleurs et les plus pauvres, ce sont ceux qui sont les plus écolos, hein, parce qu'ils ne prennent pas l'avion, voilà. Ils partent pas en vacances. Ils font attention quand ils chauffent, parce que ça coûte cher, hein, effectivement, voilà. Et puis, ils achètent rarement de la viande. Hein, alors, faut arrêter avec ça. Et effectivement, il faut se dire que, voilà, moi, je crois qu'on pourra discuter de l'écologie. On a toutes les solutions, plus ou moins. C'est d'ailleurs fascinant, quoi. On a toutes les solutions. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi autre chose qui m'a fascinée dans la discussion. C'est que tout le monde dit un plan d'investissement, l'État doit mettre au pot, une banque, climat, etc. Personne, finalement, n'a demandé, y compris à ceux qui possèdent les capitaux, qu'on nomme, vous savez, les investisseurs. On nous dit que ce sont des investisseurs. Tout dépend d'eux. Il faut leur dérouler le tapis rouge, leur faire des cadeaux, etc. Personne n'a dit qu'on allait les mettre à contribution.
Nous, on est pour une taxe sur Total. Hein ? Nous, on est pour une taxe sur Total, sur les banques.
Alors, moi, ce n'est pas une taxe sur Total. Je pense que Total, il faudrait l'exproprier. Je pense qu'il faudrait effectivement que ces capitalistes qui dirigent ces grands groupes, je parle des grands groupes industriels,
nationalisent ces grands groupes.
Il faudrait les exproprier et qu'on les gère collectivement. Parce que la question de l'écologie, c'est la question de l'organisation de notre économie.
Nathalie Arthaud, vous ne voulez pas de protectionnisme, que vous avez peur que ça se répercute sur les prix à la consommation. Que ça veut dire que vous êtes pour qu'on continue à importer des produits qui ne sont pas aux mêmes normes écologiques que les nôtres.
Aux mêmes normes écologiques que les nôtres. Il ne faudrait pas non plus être naïf et idéaliser les produits made in France. Enfin, je suis désolée, mais j'ai quand même en tête un certain nombre de produits qui nous ont empoisonnés. Bon, voilà, je pense à la vache folle. Écoutez, le lait contaminé de Lactalis.
La vache folle, elle n'était pas française, Madame Arthaud.
Elle n'était pas importée.
La vache folle, elle n'était pas française.
Donc, il y a les prothèses PIP, le Mediator, tout ça, c'était bien français. Donc, si vous voulez, la marque France...
Ça ne se mange pas, ça. Pas de l'agriculture, c'est un médicament.
Il ne faut pas croire, ça ne nous protège
pas. Et il ne faut pas,
parce que ce petit discours expliquant que tout ce qui est fait à l'étranger, c'est forcément mauvais, c'est forcément... me gêne quand même considérablement. Voilà. Donc, par ailleurs, oui, bien sûr, moi, je pense que le protectionnisme aux frontières, ça veut dire plus de taxes. D'ailleurs, c'est ça, hein, la définition, on met des taxes. Donc, ça veut dire qu'on va payer plus. Et en particulier, les plus pauvres, ceux qui, justement, comptent chaque euro... et qui, effectivement, n'ont pas d'autre choix que d'acheter le moins cher, eh bien, ils vont donc payer plus cher. Alors, pas que l'agriculture, parce que le protectionnisme, c'est surtout sur les vêtements, sur l'électroménager, etc. Moi, je suis contre que, effectivement, vu les bas salaires, vu les difficultés de vivre, il y a encore des taxes qui se rajoutent. Et moi, j'observe que, finalement, c'est une politique qui consiste un petit peu comme celle de Macron. Hein. On fait d'abord payer les petites gens, on leur impose des sacrifices, et puis après, on verra, peut-être qu'il y aura une production qui remplacera, etc., etc., voilà. Eh bien, moi, je suis contre ça. Voilà, je suis contre. Je pense que...
Donc pas de taxe sur le bio.
Mais pas de taxe sur le bio, vous voulez dire pas de taxe... voilà, mais moi, je pense, y compris quand on discute bio ou pas bio, il faut quand même réaliser que, y compris beaucoup de petits agriculteurs qui voudraient faire bien, en réalité, ils en sont empêchés. Mais ils en sont empêchés parce que c'est le marché, c'est les lois du marché, c'est les lois du plus fort, mais y compris ici. Y compris ici. C'est aussi parce qu'il y a des filières de l'agroalimentaire qui imposent leurs propres lois. Écoutez, combien on entend de petits agriculteurs qui expliquent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, que les pommes qui peuvent vendre 0,70 centimes, ils les retrouvent sur les étals à 3 euros. Hein, et que finalement, dans la filière, tout le monde prend au passage, hein, sauf celui qui a effectivement produit. Donc c'est ça le problème. Alors, on veut toujours nous faire croire que le problème, il vient... Voilà, de l'étranger. Mais le problème, il est au cœur même de notre système, où c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort.
Nathalie Arthaud, sur ces questions de territoire et de remontée de la démocratie.
Alors, sur cette question de la démocratie de proximité, comme vous dites, moi, je comprends évidemment tous ceux qui demandent de pouvoir davantage intervenir, contrôler sur toutes les décisions qui les concernent. Mais j'aurais envie de poser une question qui est rarement abordée. C'est la question de la démocratie dans l'entreprise.
C'est vrai.
Parce que quand même, voilà, les salariés, ils y passent leur vie. C'est là que se fixe d'ailleurs, que les dirigeants fixent leur salaire. Il n'y a rien de démocratique. Et là, il n'y a rien de démocratique. Et là, il n'y a aucun vote d'organisé. Et d'ailleurs, j'étais frappée, le grand débat. Alors, il y a eu le grand débat organisé par Macron de partout. Alors là, de partout, il est même allé voir les enfants. Enfin, voilà. Sauf dans les entreprises. Dans les entreprises, il n'y a pas eu de grand débat. Il n'y a pas eu, allez, on se met ensemble, on discute, comment on voit les choses, alors que le gouvernement nous explique qu'il faut faire les choses ensemble, etc. Dans les entreprises, il y en a un qui dirige. Un qui dirige, c'est celui qui apporte les capitaux et qui impose sa loi, et qui fixe les salaires, et qui récupère effectivement l'essentiel des bénéfices. Ben moi, je suis pour qu'effectivement, que les travailleurs... Alors, les travailleurs, ben justement, ils se battent pour que, changer cet état de fait. Voilà, moi, je pense que si on parle de démocratie de façon abstraite, eh bien, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même bien ça, c'est que les femmes et les hommes de ce pays puissent intervenir sur ce qui les impacte en premier chef, c'est-à-dire le travail, leur salaire, leurs conditions, les conditions dans lesquelles ils exercent, ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faudrait que les travailleurs aient compris contrôle. S'ils contrôlaient ce qui se passait dans les entreprises, pas seulement d'ailleurs... Enfin, l'argent, bien sûr, hein, qu'il y a, parce qu'en permanence, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent, que c'est impossible d'embaucher l'apprenti, l'intérim, mais aussi les décisions. Je pense que ça changerait énormément de choses. Et je suis convaincue que d'ailleurs, tôt ou tard, les travailleurs, s'ils étaient capables de faire ça, ils se rendraient compte qu'à la tête de toutes ces entreprises, ils feraient mille fois mieux.
Nathalie Arthaud, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'être européenne pour vous?
Bah, écoutez, c'est une question... Alors, habituellement, on nous demande qu'est-ce qu'être français.
Bah voilà.
Hein, voilà.
Aujourd'hui, c'est européen.
Non, mais moi, c'est vrai que...
Vous ne vous sentez pas européenne?
Si. Moi, je me sens plus qu'européenne, en fait. Moi, je me sens appartenir à une seule et même humanité. Donc, voilà. Moi, mon identité profonde, c'est communiste. Hein. Voilà. Et justement, c'est une identité internationaliste, précisément. Je me sens, bien sûr, raccrochée. Et puis d'ailleurs, enfin, écoutez, je crois que toute la réalité, c'est ça aujourd'hui. Enfin, avec les satellites, avec les téléphones cellulaires, on partage à l'échelle de la planète vraiment un tas de choses. Et puis on travaille aujourd'hui, enfin, c'est multinational. On est reliés économiquement, socialement, culturellement. Enfin, bon, voilà, moi, je me sens appartenir à ce tout, réellement. Ça dépasse même, en fait, les frontières de l'Europe. Voilà, bon, maintenant, étant née ici, ayant grandi là, bien sûr que je connais davantage la France, l'Europe, j'ai beaucoup voyagé aussi, voilà, mais en même temps, encore une fois, moi, je pense que je me sens, pour moi, tous les hommes et les femmes de cette terre sont des frères et des sœurs.
Du côté de Lutte Ouvrière, vous souhaitez mettre en place des États-Unis socialistes d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
D'abord, je voudrais dire, je ne partage pas ce qui est dit sur c'est l'Union européenne qui organise la concurrence. On n'est pas d'accord là-dessus. C'est le grand patronat qui organise.
Si on était d'accord, on serait dans le même parti,
n'est-ce pas,
Nathalie. Et vous auriez la même liste.
Ça me ferait plaisir.
Donc, excusez-moi, mais C'est le grand patronat qui organise la concurrence entre les travailleurs. Ce sont ces grands groupes qui organisent la concurrence entre les travailleurs. Et cette concurrence entre les travailleurs, c'est pas d'ailleurs.
Mais c'est eux qui ont écrit les traités, je suis d'accord avec vous.
Mais alors pourquoi dites-vous l'Union européenne ? Dites à ce moment-là le grand patronat, parce que les communistes, ils savaient à un moment donné parler quand même du grand patronat.
Mais on parle la même langue, il n'y a pas de problème.
Du grand capital. Bah, des fois, j'ai pas l'impression. Alors,
c'est
voilà,
vrai que vous écoutez
moi,
mal de ce côté-là.
Hein, moi, c'est le grand capital que je veux viser, parce qu'en fait, la mise en concurrence. Mais c'est pour tout, c'est y compris en France, entre le CDI, le CDD, entre les femmes, les hommes, entre les jeunes, les seniors. C'est le, comment dire, c'est l'ADN même du capitalisme que de mettre en concurrence les travailleurs. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher l'Union européenne dans tout ça, voilà. Et par ailleurs, autre chose, moi, cette souveraineté nationale...
Vous en faites quoi ?
Pour moi, c'est quand on appartient au monde du travail... Ce sont des mots creux. C'est quoi la souveraineté nationale ? Pour celui qui est obligé d'aller au restaurant du cœur pour se nourrir. C'est quoi la souveraineté nationale de celui qui cherche désespérément un boulot ? Quand on est salarié, on est souverain de quoi ? On décide de son travail ? Non, regardez, Macron nous dit, t'as deux bras, t'as deux jambes, tu vas bosser, tu traverses la rue, tu fais ce qu'on te dit de faire. Voilà. On est souverain de rien. On décide de rien. Pas du boulot qu'on fait, pas de son salaire, pas y compris de sa date des congés. On peut décider de rien, on est souverain de rien. Alors moi, je veux bien qu'on parle de souverain aujourd'hui. Mais il faut dire que les souverains, ce sont effectivement les rois des temps modernes. C'est ceux qui sont à la tête des empires, vous savez, l'empire de la cosmétique, l'empire du luxe, l'empire du caoutchouc. On a des camarades ici qui travaillent à Michelin. Voilà, ce sont ces grands groupes, ce sont eux les souverains. Alors laissons ces mots-là, effectivement, à ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des capitaux et ceux qui dominent. Mais les travailleurs, il faut leur dire que s'ils veulent être souverains, c'est-à-dire s'ils veulent pouvoir maîtriser leur vie, eh bien, il faut qu'ils se battent. Et qu'ils se battent d'abord et avant tout contre ce grand patronat, contre ces grands groupes qui bloquent, qui exploitent les travailleurs, mais qui bloquent aussi toute la société.
Emmanuel Macron propose maintenant de faire un espace Schengen restreint avec seulement quelques pays. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors moi, clairement, je défends la liberté de circulation et d'installation. Voilà. Moi,
total.
Je pense... Oui, total. Total, parce que je pense que c'est un droit élémentaire et qui devrait être un droit inaliénable pour tout être humain qui naît sur cette planète. Voilà. À partir du moment où on n'a pas la chance de naître à un endroit où on peut gagner sa vie, où on peut vivre, eh ben, il faut pouvoir bouger. Il faut pouvoir bouger. Et moi, je suis frappée d'entendre dire qu'il faut rajouter des murs, des barbelés, des miradors bientôt. Tous ceux qui applaudissaient à la chute du mur de Berlin... à la fin de ce rideau de fer. Ils sont en train d'en remettre des rideaux de fer. C'est ça la réalité. Et sur cette question, d'ailleurs, en réalité, Macron essaye d'instaurer un petit duel avec, le Rassemblement national, Salvini. Mais ils ne disent pas les mêmes choses. Mais dans les actes, c'est la même politique, une politique qui est criminelle. Et la réalité, c'est que tous les dirigeants, aujourd'hui, quasiment tous les dirigeants d'Europe, y compris... beaucoup, beaucoup des candidats dans ces élections européennes agitent ce chiffon rouge du migrant. Ce chiffon rouge du migrant pour justement faire diversion. Pour ne pas pointer les véritables responsables du chômage de masse qui est un fléau, effectivement, dans le pays, de cette misère, des bas salaires. C'est ça, la réalité. Alors, bon ben, nous disons qu'il faut être conscient que les migrants d'aujourd'hui, bien sûr que c'est les travailleurs. Dans quelques mois, on va les retrouver. On va les retrouver dans les arrières-cuisines de ces restaurants. On va les retrouver à Rungis. Ils vont faire tourner la société, comme d'ailleurs toute la classe ouvrière immigrée.
Et ils vont baisser le coût du travail.
Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils seront intégrés au combat des travailleurs. Vous savez, il y a beaucoup de luttes des travailleurs sans papier. Ils se battent beaucoup, ils sont très combatifs, y compris avec l'expérience qu'ils ont de leur vie. Eh bien, ils pourraient être un apport fondamental pour que les travailleurs, justement, ne se laissent pas faire, pour qu'ils imposent. Mais ça nécessite cette conscience qu'il ne faut pas se laisser diviser. Encore une fois, le pays s'est construit avec les travailleurs immigrés. Ils font aujourd'hui tourner toute la société. Et vouloir aujourd'hui couper ces liens, vouloir empêcher... les familles de se retrouver, eh bien, je trouve ça révoltant.
je suis toujours étonné de voir des gens qui défendent soi-disant les travailleurs défendre en même temps ce projet cupide, inhumain, qui fait traverser la Méditerranée au risque de leur vie à des milliers et des milliers de gens et qui se retrouveront effectivement dans les arrières-cuisines sous-payés, esclavagisés. Je trouve ça absolument
inadmissible. C'est le lot des travailleurs qui gagnent leur
bien.
Vie et d'aller là
moi,
où
je suis pas d'accord avec ça.
Et on est tous des nomades en puissance. Parce que si
et tout à l'heure, je me suis dit que
demain,
le MEDEF pourrait
ici,
vous faire une carte d'adhérent parce que vous aviez le même discours. Vous avez le même discours sans vous en rendre compte sur le libre-échange. Et sur ça, vous avez le même discours que le MEDEF, Madame Artaud. C'est quand même bizarre. Et moi, je trouve que ça n'est pas responsable. Alors oui, avoir des frontières
Vous ne faites pas la différence entre les réfugiés et les migrants économiques ?
Moi, je me place du point de vue de ces femmes et ces hommes. Ça change quoi de mourir sous les bombes ou de mourir de faim ? Ça change quoi, dites-moi ? Moi, je me mets de leur point de vue, voilà. Et moi, je sais que je ferai exactement comme eux, tout simplement. Et moi, je ne comprends pas cette idée consistant à dire que des gens qui viennent pour se remonter les manches, qui travailleront et qui travailleront dur, en quoi c'est un danger ? Et en quoi c'est une menace ? Il faut vraiment que notre société, elle soit tordue, hein, qu'elle soit pourrie pour penser ça, vous voyez ? Moi, je pense effectivement que ces femmes et ces hommes, eh bien, ils s'intégreront, et nous en tout cas, les ouvriers, on fera tout pour qu'ils s'intègrent dans le mouvement ouvrier, c'est-à-dire dans leur camp, parce que la grande majorité sera des travailleurs, des ouvriers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les camarades qui m'accompagnent ici, dans leurs entreprises, mais ils travaillent avec des 20, 30, 40 nationalités différentes. Et heureusement qu'ils se battent ensemble. Parce que s'ils ne se battaient pas ensemble, ils n'obtiendraient jamais rien. Même pas le droit de, même pas le droit de faire leur pause, même pas le droit, leur droit syndical minimum. Donc voilà. Et moi, quand j'entends qu'il faut renforcer les frontières, alors les uns, c'est à l'échelle du pays, les autres, c'est à l'échelle de l'Europe. Et c'est vrai que même Emmanuel Macron, c'est à l'échelle de l'Europe, il faut se protéger, etc. Je me dis, mais ils sont trompés de siècle, ces gens-là. Voilà, parce que vous voulez faire tourner la roue de l'histoire à l'envers.
Ah non, c'est...
Tout pousse.
C'est au 19e qu'il n'y avait pas de frontières.
Aujourd'hui, c'est évident que... Mais toute l'économie, encore une fois, ils font des multinationales, des holdings, ils nous font bosser ensemble, ils nous mettent en relation en permanence. On vit au même rythme d'un bout à l'autre de la planète. Et puis, tous les défis qui se posent à nous, ils sont communs. Ils sont communs. Tout pousse dans le sens, effectivement, de gérer collectivement les choses. Et vous voulez mettre des frontières, des murs, des barbelés. Mmh. Eh bien, voilà, vous êtes des réactionnaires.
Nathalie Artaud, un dernier mot avant les conclusions.
Moi, ça me semble évident. Il faut, effectivement, les mêmes droits pour tous les travailleurs. Hein. Mais je ne pense pas que ça viendra d'en haut de l'Union européenne, de loi ou je ne sais quoi. Moi, je compte sur, encore une fois, la mobilisation des travailleurs pour ça. Regardez, y compris en France, comment l'égalité entre les femmes et les hommes... elle n'aurait pas avancé d'un iota s'il n'y avait pas un combat permanent et que cette question était mise sur le tapis par justement les femmes qui essayent de s'organiser, etc. Donc la réalité, c'est que si on veut plus d'Europe sociale, si on veut les mêmes droits entre les travailleurs, eh bien, il faudra prendre le chemin des luttes collectives. Bon, là, on a quand même un exemple avec les Gilets jaunes que justement... Quand il y a une pression par en bas, eh ben ça tord le bras de ceux qui dirigent. Voilà. Alors, c'est pas aller assez loin dans le sens où il faudrait que les travailleurs de toutes les entreprises s'y mettent. Mais c'est ça les perspectives. En tout cas, nous, Lutte ouvrière, on se présente pour dire voilà, c'est un programme de lutte. Il va falloir effectivement qu'on se lève massivement.
Nathalie Artaud, c'est vous qui aurez le mot de la fin ce soir. Allez-y.
Ben, les travailleurs, en temps normal, ils n'ont pas la parole. Voilà, et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes leur a permis, pour un certain nombre, de s'exprimer. D'abord, dénoncer la politique anti-ouvrière de Macron, une politique en faveur des riches, ça c'est sûr. Et puis, il leur a permis de mettre sur la table la question justement du pouvoir d'achat, de leurs difficultés quotidiennes de vivre. Voilà, et ça, c'était quelque chose de très salutaire. Et je pense qu'il faut que les travailleurs, y compris dans les entreprises, aillent encore plus loin, justement. C'est-à-dire qu'ils revendiquent clairement ce qui leur est nécessaire. Qu'ils revendiquent de prendre sur les profits. De prendre sur les profits pour augmenter les salaires. De prendre sur les profits pour embaucher aussi. On a assez peu parlé du chômage. Mais le chômage, c'est le fléau. Il faut effectivement que chacun ait accès à un emploi. Ce qui signifie d'abord arrêter avec toutes ces suppressions d'emplois, toutes ces fermetures d'entreprises, y compris de grands groupes richissimes. Ce qui veut dire aussi de répartir le travail entre tous, sans perte de salaire, évidemment. Mais il y a encore une fois l'argent pour ça. Et puis, exprimer. exprimé leur volonté de contester, de mettre sous surveillance cette classe capitaliste qui nous conduit à la catastrophe. Catastrophe économique, catastrophe écologique. Alors, ce ne sont pas des objectifs, comment dire, ça ne tombera pas tout cuit. Ce sont des objectifs, en réalité, de lutte. Moi, à l'inverse de tous ceux qui sont sur le plateau, moi, je ne présente pas un programme électoral. Parce que je ne pense pas que les choses viendront d'en haut et sûrement pas de ce Parlement européen. Mais il faut que les travailleurs, ils sachent qu'ils ont une politique, qu'il y a un parti dans lequel ils peuvent avoir confiance, justement, mais un parti qui dit, vous avez les choses entre vos mains. Ça dépend de votre mobilisation et de vos capacités à inverser le rapport de force avec le grand patronat.
Merci, Natalia.